Une drôle de fin, disons-le, pour la chanson Léo de Valence.
C'est drôle parce que la chanson, c'est Léo. Et puis, je me demandais que voulait dire Léo. Léo en lien avec le sondage concernant la venue de Charles III à la monarchie et tout ça. Parce que je lisais que les répondants ont été recrutés aléatoirement à l'aide du panel en ligne de Léo. Alors, Léo, c'est Léger Opinion, une application mobile qui permet à ses utilisateurs de répondre à des sondages sur leur téléphone depuis 2019. On en apprend à tous les jours. Et puis, je suis certaine que vous allez en apprendre à plusieurs personnes qui n'ont pas lu cet article qui a été publié dans la presse d'hier et qui est repris aujourd'hui dans la presse, puisque c'est un texte qui a été retenu, étant donné que c'est un texte absolument spectaculaire, une nouvelle couleur qui est une percée médicale en même temps, Daniel.
Très intéressant en plus, et là, ça va requérir l'attention de tous. Je vais vous dire quelques mots clés à retenir. Alors, je vais vous parler de cône et il y aura aussi je vais vous parler de bâtonnets, ces deux trucs différents.
Pas des cônes oranges ni des bâtonnets de fromage, là.
Pas du tout, pas du tout. Alors, cône et bâtonnet, on parle de l'œil et je vais vous parler de certaines mesures nanomètres. Alors, retenez ce mot-là, ces trois mots-là, cône, bâtonnet et nanomètre.
Vous nous en demandez pas mal, là.
Ben, c'est parce que je trouve que c'est un texte qui peut être rigoureux pour le début
oui.
d'une journée.
Nanomètres, donc. Cône, bâtonnet et nanomètres.
C'est ça, pour vous aider à me suivre. Alors, c'est comme je vous disais, ça a apparu dans la presse hier et aujourd'hui encore, parce que c'est un texte quand même, c'est une percée médicale. C'est une découverte qui pourrait mener à un traitement pour le daltonisme et des maladies dégénératives de l'œil. Et c'est Mathieu Perrault qui a publié cet article. Alors, nous avons réussi à stimuler seulement une partie de l'œil. C'est ce qu'explique le neurobiologiste Austin Rourda de l'Université de Californie à Berkeley, qui est l'auteur de l'étude publiée en avril dans la revue Science Advance. Et ce monsieur Austin Rourda est un Ontarien. Ça a activé des photorécepteurs qui normalement ne sont pas activés seuls. Ils correspondent à un vert qui normalement n'est pas visible, d'où cette nouvelle couleur. C'est vraiment une nouvelle couleur, il l'affirme. La rétine de l'œil contient 6 millions de cônes, des photorécepteurs qui reçoivent chacun une longueur d'onde différente correspondant à une couleur différente. Là, il y a trois catégories de cônes. Il y a les longs, il y a les moyens et les courts. Il faut retenir. Les cônes stimulés par M. Rourda sont dans la catégorie moyenne. Or, les cônes moyens ne sont jamais stimulés isolément, mais toujours conjointement avec des cônes de catégorie longue ou courte. Ça signifie que la longueur d'onde des cônes moyens, soit la couleur qu'ils captent, n'est jamais vue par le cerveau. Le but de l'expérience était de savoir si le cerveau, face à des informations sensorielles nouvelles, peut les utiliser pour créer de nouveaux concepts. Ben, si c'est le cas, ça signifie que le cerveau a cette plasticité. C'est encourageant pour le traitement des problèmes de vision. Alors, c'est d'où l'importance de cet article. Mais s'agit-il vraiment d'une nouvelle couleur, le fameux vert? C'est la même différence qu'entre le rouge et le rose, répond M. Rourda. La plupart des gens diraient que ce sont deux couleurs différentes, hein, le rouge et le rose. Une chose est sûre, un tel vert n'a jamais pu être vu par un être humain. C'est un vert avec un peu moins de blanc. Parce que l'appareil de M. Rourda permet de stimuler en même temps 4000 cônes dans la rétine. Lors de l'expérience qui a permis d'identifier ce nouveau vert, 250 cônes ont été stimulés. Cet appareil permet de stimuler seulement certains des cônes moyens de l'œil. Entre 5% et 10% des cônes sont courts. Le reste, ce sont des cônes moyens et longs. Il y a deux fois plus de cônes longs que moyens, mais c'est variable d'une personne à l'autre. Lui, M. Rourda, il a 1,3 fois plus de cônes longs que de cônes moyens, mais un de ses collègues a trois fois plus de cônes longs que de cônes moyens. Alors, les trois types de cônes sont répartis partout dans la rétine. Les concours captent généralement les longueurs d'onde autour, et là, c'est le nanomètre est important. Alors, les concours captent généralement les longueurs d'onde autour de 440 nanomètres, correspondant à un bleu violet. Les moyens, celles autour de 535 nanomètres, correspondent à un jaune verdâtre. Et les longs, les longueurs d'onde de 559 nanomètres, vont de l'orange au rouge. À titre de comparaison, M. Rourda indique que le jaune correspond à la longueur d'onde de 589 nanomètres. Tout le monde serait d'accord pour qualifier de jaune une longueur d'onde dans une fourchette de 4 à 5 nanomètres de part et d'autre de 589 nanomètres. Alors, les sensibilités spectrales des types de cônes courts et longs chevauchent celles des moyens, ce qui signifie qu'aucune lumière naturelle ne peut stimuler seulement les cônes moyens. La nouvelle couleur détectée par Austin Rourda correspond à une longueur d'onde de 510 nanomètres. Ça nous fait pas mal de calculs, là, hein? Beaucoup d'attention.
On vous suit.
Ah oui. Alors, là, ici, je vous parle de daltonisme. La découverte, cette belle découverte, pourrait permettre de contrer le daltonisme qui empêche de distinguer le rouge et le vert. Ce trouble, maintenant appelé dichromatisme, est causé par l'absence des cônes longs ou moyens. On pourrait peut-être entraîner le cerveau à percevoir une autre couleur en stimulant seulement certains cônes, dit M. Rourda. Une autre étape pourrait être une thérapie génique pour créer le type de cône manquant. M. Rourda estime qu'une couleur pourrait être visible même s'il y a moins de cônes du type manquant que normalement. Si on parle de daltonisme, le daltonisme touche 1% des hommes et est très rarement chez les femmes. On ne le retrouve pas, en tout cas de façon très rare chez les femmes. Environ 8% des hommes ont une forme mineure de dichromatisme. Certaines femmes, entre 1 et 10%, sont même, on dit, tétrachromatiques, c'est-à-dire qu'elles ont 4 types de cônes, ce qui ça complexifie là, toute l'affaire. Alors, ce n'est pas évident sans test, parce qu'il s'agit de 2 types légèrement différents de cônes longs, note le chercheur, quand il parle des femmes. Cette technologie pourrait aussi être utilisée pour d'autres maladies dégénératives de l'œil, comme la rétinite pigmentaire. La rétinite pigmentaire, c'est un type de vision en tunnel qui apparaît généralement au début de l'âge adulte et est liée à la dégradation des cônes. Ça touche une personne sur 5000, donc il y aurait 1500 Québécois et qui seraient atteints de cette maladie, et elle est héréditaire en plus. Mmh. Alors, le nombre de cônes, la question que l'on pose, le nombre de cônes, est-ce qu'il diminue avec l'âge? Pas beaucoup. Je fais de l'imagerie avec mes cônes depuis plus longtemps que quiconque sur la planète. J'ai eu la chance en 1996 d'être dans le premier laboratoire au monde à avoir une caméra adaptative capable d'observer les cônes. Et je n'ai perdu, depuis 2000, qu'un ou deux cônes sur les 4 à 5 000 que j'ai. Donc, c'est quand même bien. L'ambition du scientifique est de stimuler sélectivement les cônes de la fovéa, la partie centrale de l'œil, qui sert à la vision de précision. La fovéa ne mesure que 100 micromètres, alors c'est minuscule. Elle contient la plus haute densité de cônes. M. Rourda a bon espoir d'y arriver avant sa retraite. En ce qui concerne maintenant la vision nocturne, il y a un 4e type de photorécepteur qui est plutôt appelé bâtonnet. Là, c'est là le mot bâtonnet. Les bâtonnets, ils servent à la vision nocturne et est beaucoup plus abondant. Il y aurait 100 millions de bâtonnets dans l'œil que les 3 types de cônes. Donc, c'est vous dire, c'est très varié. Il y en a énormément. Les bâtonnets sont très sensibles et donc ne sont pas très utiles le jour parce qu'ils saturent très rarement, note M. Rourda. Et en terminant, ben écoutez, il y a 10 millions, c'est le nombre de couleurs distinctes que l'œil peut voir.
Combien?
Il y a 10 millions. Et le nombre de couleurs distinctes que l'œil humain peut voir.
Je connais même pas 10 millions de couleurs.
Ben non. Ça doit être assis, il doit avoir beaucoup, 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 énormément de nuances.
Oui, ça, c'est
là.
Sûr.
Ça, il doit avoir
plus que 50 nuances de gris.
Ouais, plus, oui, il doit en avoir pas mal. Ouais, peut-être, d'où le titre. En tout cas, c'est un autre sujet. Mais c'est quand même intéressant. C'est une belle percée médicale qui pourrait sûrement être bien pour certains de nos auditeurs. Hein, on ne sait jamais.
Et on se rend compte que l'œil est une fabuleuse machine.
Oui, parce que quand on perd la vue, on perd 80% de l'information autour de nous. Hein. Et puis, je vous disais un peu plus tôt que je m'occupe de personnes non-voyantes, des amis. Et puis, je le constate avec eux à quel point les yeux, c'est important. Puis d'ailleurs, en fin de semaine, on parlait du vocabulaire lié on utilise le vocabulaire lié à la vue. Tu sais, quand je parle à mon amie, je lui dis, regarde, as-tu vu ça? Ouais. Je vais te montrer ça. Puis elle me disait, c'est vrai, beaucoup de mots sont liés à la vision.
Mais je pense que les personnes avec un handicap visuel ne veulent pas qu'on se censure à ce point de vue-là, hein?
Non, du tout. Tout ça, ça peut dépendre. Non, c'est naturel, hein. Moi, quand je parle à mon ami, je dis, as-tu vu ça? Regarde, je vais te le montrer. Touche. As-tu observé? Je vais te le faire observer. Puis, puis c'est vraiment, c'est un univers, hein, complet. Et d'ailleurs, je lui dis, en fin de semaine, elle cause avec des gens sur FaceTime. J'ai dit, ben, vous devez avoir du plaisir à, est-ce que vous voyez quand vous, tu sais, le réflexe, est-ce que vous voyez sur FaceTime? Parce que nous, on a l'habitude de se voir. Ben, Danielle a dit, je vois pas pourquoi je les verrais, je les vois pas.
Non, mais ils font quand même des FaceTime.
Ah, oh, ils font des messengers sans FaceTime, mais c'est juste que c'est drôle. C'est un réflexe, hein? On a un réflexe tout simplement.
Oui, tout à fait. Et puis, ces personnes qui ont des problèmes de vision aiment aussi aller au musée et regardent les œuvres autrement. Ils ont aussi la chance souvent de toucher certaines œuvres à travers des visites guidées.
Et puis, elle lit beaucoup, mon amie, donc c'est bien.
Elle s'appelle comment, votre amie?
Claudine.
On lui dit un beau bonjour à Claudine.
Oui.
Et Danielle, on ne vous dit pas tout de suite bonjour parce que vous allez revenir au retour de la pause de la chanson. Vous allez nous parler savon. À tout de suite.
On se savonne.
Avant de parler savon, on va vous présenter une nouvelle chanson d'Andrea Lindsay. Danielle Rioux, vous nous intriguez.
Ben oui, mais la question, je vais vous poser une question. Quand vous voyagez, qu'est-ce que vous faites avec les savons à l'hôtel?
Ah, je les ramasse tous. Ben surtout s'ils sentent bon.
Oui, hein? Puis Louis, vous, est-ce que vous faites la même chose?
Ça peut m'arriver, oui, effectivement.
Ben c'est
si
pour
c'est
nous.
Là. Oui.
Oui, puis Mathieu?
Je crois que je ne me lave pas en voyage.
Ben là, et j'ai l'art de contredire lui. Ben écoutez, la question ici,
et
c'est...
Et vous, Daniel?
Ben moi, je les ramasse. Là, ouais. Je ramasse les petits savons, parce que ça me rappelle une de mes tantes qui voyageait, puis elle avait toujours un pot avec des mini-savons, puis ça, c'est le souvenir de ce petit pot-là. Puis je ramasse les savons pour... Ben, après ça, ça me fait rêver mes voyages.
C'est sûr.
Hein? Mais on se pose la question, ceux qui ne ramassent pas, ben, qu'est-ce qui arrive avec les savons qui sont peu utilisés? Donc, il y a Unisoap qui fait quelque chose de pas mal bien. Elle récupère, c'est en France, récupère les savons non utilisés. Puis il y a près de 51 millions d'entre eux, de ces savons, qui sont jetés chaque année. Alors, c'est un organisme lyonnais qui s'est donné justement une mission, celle d'éviter le gaspillage et d'en mettre fin. Cet article paru dans la presse du 27 janvier dernier. Alors, depuis sa création en 2017, Unisoap a recyclé près de 70 000 savons d'hôtel pour les remettre à des plus démunis. On pense souvent aux besoins alimentaires, mais en fait, les personnes en situation de précarité ont aussi besoin, en ce qui concerne l'hygiène et le bien-être, hein? Ça fait du bien. Alors, c'est Océane Chancel qui est chargée de communication chez Unisoap qui mentionne cela. Selon l'organisme, près de 3 millions de personnes n'ont pas accès aux produits d'hygiène de base en France. Alors, comme je le mentionnais, Unisoap a recyclé 70 000 savons, à partir desquels l'organisme en fabrique de nouveaux, qui sont ensuite offerts à des personnes dans le besoin. Et puis, ils ont des partenaires, donc, entre autres, la Croix-Rouge, l'Armée du Salut, rues et ou les restaurants du cœur. Les savons sont remis à des personnes sans domicile fixe, des réfugiés, des femmes victimes de violences, des personnes handicapées et des étudiants.
Ils font du chemin, ces savons-là?
Énormément. C'est essentiel dans la société de pouvoir se laver, c'est la moindre des choses. Mathieu est à part, là. Mais pour l'inclusion, c'est vraiment très important. Et comment ça fonctionne? Bon, ben, les hôtels ramassent d'abord les savons. Ils font ensuite un don en argent à Unisoop, qui est un montant proportionnel à leur nombre de chambres. Les hôtels qui travaillent avec nous, ben, ce sont nos principaux mécènes, c'est ce que mentionne Mme Chancel, et leur don est déductible d'impôts à hauteur de 60 %. Pour eux, ça ne revient pas à grand-chose, mais pour nous, ça permet de faire perdurer l'activité. L'organisme a fait affaire avec 470 hôtels partenaires en France, en Belgique et en Italie. Et ça va tellement bien qu'en 2023, Unisoop a ouvert une antenne aux Émirats d'Arabes Unis. Dans les hôtels, derrière tout cela, il y a aussi les salariés, ceux qui font le ménage, ceux qui nous donnent les savons, parce qu'eux aussi sont contents, parce qu'ils constataient qu'il y avait un gaspillage phénoménal et ils ne savaient pas comment faire ou comment agir. Et pour des raisons d'hygiène, donc, la couche supérieure du savon est retirée complètement. Contrairement au savon liquide, le savon solide est bactériostatique. Les bactéries ne peuvent pas s'y répandre à l'intérieur. Le savon est ensuite fondu pour être reconstitué en pain de savon. Et jusqu'ici, il y a 16 tonnes de savon qui ont été récupérées. Ces tâches sont réalisées au sein d'établissements et services d'accompagnement par le travail, des lieux où des personnes handicapées peuvent travailler en bénéficiant d'un soutien médical et social. Et tout est dans un lieu adapté pour qu'elles puissent monter en compétences et plus tard travailler dans une entreprise classique. Qu'est-ce qu'on fait aussi? On fait la même chose avec les draps d'hôtel. En plus des savons, Unisoop collecte depuis 2 ans les surplus des entreprises qui fabriquent des produits d'hygiène et de cosmétiques, les invendus, les fins de série ou ceux avec de petits défauts de qualité. Alors, on ramasse des brosses à dents, du dentifrice, du maquillage, des couches ou encore du détergent. Et ces kits d'hygiène sont ensuite emballés dans des sacs fabriqués à partir d'anciens draps d'hôtel. Alors, comme ce sont des objets du quotidien, on ne se rend pas compte à quel point ça peut manquer et à quel point ça peut vraiment apporter du bonheur à une personne et parfois même une famille entière. Et pour Océane Chancel de Unisoop et ses collègues, la partie la plus valorisante de leur travail est d'aller sur le terrain et ça nous redonne, comme elle dit, envie de travailler tous les jours. À la fin, il y a une vraie finalité, il y a vraiment des personnes que ça aide. Voilà, on a fait des bulles avec les savons.
On espère que ça fasse des petits, que ça, oui. Ça se passe en Amérique du Nord.
Oui, que ça donne des idées aussi, là.
Oui, merci beaucoup pour ces deux sujets vraiment passionnants, cher Daniel. Puis on espère que vous serez là la semaine prochaine.
Ben oui, j'en ai plein de sujets.
Bonne semaine.
Bye.